Balmoral Room, New GTLD Stories Panel. London 50.
Greetings, everyone.
Cyrus Namazi au micro. Bienvenue au panel sur les nouveaux GTLD. Je m'appelle Cyrus Namazi, je fais partie du personnel d'ICANN. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me demander qu'est-ce que c'est que cette histoire des histoires des nouveaux GTLD, quelle est l'historique derrière cette histoire. Et ce que je leur ai dit, c'est que du point de vue historique, en général, on se focalise sur les contrats, les processus, les procédures, etc., surtout étant donné la phase du programme des nouveaux GTLD à laquelle nous sommes. Mais avec ces centaines de nouveaux GTLD qui sont déjà disponibles sur le marché général et qui ont déjà été délégués, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de voir un petit peu l'avenir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des changements très importants qui vont avoir lieu pour le DNS. Donc, on passe de 22 GTLD à des centaines de nouveaux au cours des quelques mois à venir. Et donc, cela va avoir un impact très important sur la façon dont les gens utilisent l'Internet. Et pour moi, et je crois que pour beaucoup d'autres personnes, c'est un petit peu encore flou. Je ne sais pas comment les choses vont se développer, comment est-ce que cela va changer la manière dont nous avons accès aux informations, qu'est-ce que cela va vouloir dire pour le titulaire de nom de domaine moyen. Donc, j'ai choisi un petit peu au hasard un panel pour participer à la séance d'aujourd'hui, un panel qui représente, à mon avis, différents points de vue, différents plans d'approche par rapport à ces nouveaux GTLD. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est réellement d'avoir une discussion très vivante avec vous pour que les choses soient plus claires pour nous tous, pour qu'on sache un petit peu à quoi les choses vont ressembler dans 6 mois, 1 an ou plus. Donc, mon panel va commencer par se présenter. Ils vont chacun dire quelques mots, avoir une petite présentation à faire et j'espère que tout ceci durera environ 30 minutes et ensuite il y aura le temps de discuter. Il y a des micros des deux côtés de la salle, donc on ouvrira les micros. Et donc n'hésitez pas en tant que participant à aller au micro quand le moment sera venu. Alors, sans plus attendre, je vais passer le micro à Sophie. Alors, j'ai mon collègue du département juridique qui m'a rappelé que la participation du panel ne représente pas une approbation des nouveaux GTLD. Et si je vous lis toute la déclaration qu'il m'a donnée, je ne vais pas réussir à faire ma présentation. Mais je ne voulais pas que vous pensiez que ceci représente une approbation par ICANN. Donc voilà. Sophie au micro. Merci, Cyrus, pour cette présentation qui nous a permis de débuter. Je m'appelle Sophène. En général, les gens m'appellent également Sophie. En fait, je préfère Sophia parce que So, en chinois, ça veut dire grosse et énorme. Donc, je préfère qu'on m'appelle Sophienne ou Sophia. J'ai le plaisir d'être ici à Londres et de participer à ce panel sur l'histoire des nouveaux GTLD. Je travaille actuellement pour Canet et je suis responsable des services et produits des nouveaux GTLD pour Canet. Pour si vous ne connaissez pas Canet, c'est un des plus grands fournisseurs de services pour les nouveaux GTLD en Asie-Pacifique actuellement. Nous sommes opérateurs de registre pour 21 nouveaux GTLD et bien sûr, nous aurons .wanzhe qui veut dire .url en chinois. Donc vous savez qu'il y a des centaines, plus de 300 qui ont été dédiés. Pour ce qui est de Canet, il y a 10 TLD que nous hébergeons avec des contrats, y compris des ASCII. Et 6 IDN en chinois. Parmi ceux-ci, il y a 5 TLD qui ont été lancés au cours des quelques mois derniers. Sur la base de ce que j'ai vu dans mon travail avec les bureaux et les opérateurs de registre et d'autres parties dans le secteur des domaines, il y a certaines tendances que je peux vous décrire. Alors, sur la base de ce que j'ai vu, je dois vous dire que les TLD qui se focalisent surtout sur le marché chinois sont en augmentation. Nous avons prévu un énorme potentiel pour les ASCII et les IDN. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le ping, sur le wiki, le ping est défini comme le nom de domaine de système pour la prononciation des noms en chinois. Voilà. Alors, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a un potentiel énorme pour ces IDN, y compris dans le marché chinois. Les TLD qui ont été lancés sont des applications concrète avec une approche marketing beaucoup plus créatrice, ce qui va donc mener à une segmentation du marché qui sera basée sur les diversités géographiques et donc des intérêts des consommateurs différenciés. Pour les registres qui lancent ces nouveaux GTLD, cela leur permet d'utiliser ces nouveaux pouvoirs. Ils peuvent donc se différencier des autres. Et ceci représente justement l'enjeu, le travail pour tous les nouveaux GTLD qui sont lancés. Ensuite, s'il vous plaît, diapositive suivante. Je ne crois pas que ce soit la bonne. Donc, ce que je viens de vous dire en ce qui concerne l'utilisation des possibilités actuelles, j'ai certains exemples à vous demander. Par exemple, le IRN en pinyin chinois, cela veut dire personne. Et donc, le prestataire a également un réseau social en Chine. Donc, c'est un petit peu comme le Facebook pour la Chine. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est que lorsqu'il y aura le lancement du IRN, ils vont utiliser leur chaîne existante, leur réseau social, en fait, existant. Et les utilisateurs qu'ils ont pour, en fait, pousser ces services sur le marché. Donc, c'est un des exemples qui permettra d'avoir une approche marketing un petit peu différente de ce qu'on a déjà vu dans le marketing traditionnel. J'aimerais également parler des défis que j'ai vus pour ces nouveaux opérateurs de registre des nouveaux GTLD. Premièrement, il y a parfois des problèmes que vous connaissez pour ce qui est des navigateurs, des applications qui ne sont pas forcément compatibles avec ces nouveaux GTLD. Et donc, ceci peut entraîner des problèmes. Et puis, il y a un impact, évidemment, sur le comportement des consommateurs à long terme. Et puis, certaines des approches marketing sont déjà limitées par les contraintes actuelles. Il y a le problème des collisions de noms. Tout ceci veut dire qu'il y a certaines limites sur la définition des stratégies marketing. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment concentrer notre travail au sein d'ICANN et au sein de la communauté pour que nous puissions aider ces registres à réussir à l'avenir. Et enfin, il y a des complexités sur le marché. La concurrence, en tout cas ce que je vois pour le marché chinois et sur le marché plus large d'Asie-Pacifique, il y a énormément de pression sur ces nouveaux opérateurs de registres. Bien sûr que l'élargissement de l'espace va stimuler la demande marketing, mais comment en arriver à la reconnaissance sur le marché pour ces nouveaux GTLD, c'est cela qui représente la clé de leur réussite à venir. Et donc, c'est là que j'aimerais un petit peu ouvrir la discussion avec vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra générer davantage d'idées là-dessus. Merci. Cyrus au micro. Ensuite, nous avons Derek. Pardon, Dick. Je m'appelle Dick Tchironovski. Je suis responsable de Point Berlin, le GTLD pour la ville de Berlin et tous les Berlinois. Et je crois que depuis le début, depuis que nous avons commencé ce lobby pour les nouveaux domaines de premier niveau génériques, je crois que c'était en 2004 ou 2005, et finalement on a fini par avoir une décision avec un début de programme, de politique et de procédure en 2005. Et donc à partir de cette année jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, comme pour tous les candidats de nom de domaine, mais nous avons enfin lancé notre nom de domaine .berlin maintenant. Donc, c'est pratiquement 10 ans après le début de cette discussion avec ICANN pour les nouvelles extensions. Pour l'instant, nous avons 140 000 titulaires de nombre de domaines. Donc, c'est quelque chose qui est très accepté dans la communauté. Et vous voyez à l'écran, donc, notre lancement avec les plus grandes parties prenantes, les plus importantes. Nous avons le gouvernement de la ville, nous avons le Bitcom, une grande association, nous avons Handwerk, donc tout ce qui est artisanat, nous avons Fischerin, qui est là, Fischerin qui justement est présente avec nous, et je voulais vous laisser avec cette diapositive qui, je pense, reflète bien la situation. Et donc, je préfère en fait répondre à vos questions plus tard dans la discussion pour le reste. Merci. Merci, Dick, dit Cyrus. Jordan? Merci. Alors, justement, puisqu'on est en train de raconter des histoires, je vais faire exactement ce qu'on vient de dire, raconter des histoires, et je préfère effectivement ouvrir aux questions plus tard. Mais j'aimerais quand même commencer par une petite histoire, parce que justement, je crois que ça représente bien notre démarche par rapport au nom de domaine. Il y a quelques années, nous avions une réunion à ICANN qui était à Costa Rica. Et ce qui était intéressant à Costa Rica, c'est que on n'a pas exclu personne, en fait. La façon dont les gens cherchaient les restaurants. Quand on demandait en fait des indications pour trouver un restaurant, les gens vous disaient « Allez, à part là, vous allez trouver. » Et au bout d'un moment, effectivement, on trouvait le restaurant dont on avait besoin. Et puis parfois, on se rendait dans un lieu touristique et là, ils vous disaient « Bon, je vais vous le mettre dans votre GPS. » Et il mettait en fait les coordonnées donc 36 degrés, je ne sais pas quoi. Et donc c'était très précis. Et à mon avis, c'est un petit peu comme ça que nous utilisons l'Internet aujourd'hui. Lorsqu'on souhaite trouver quelque chose sur Internet, soit on utilise un moteur de recherche et on tape telle ou telle chose, et Google, bien sûr, est un moteur de recherche excellent, mais bon, passons là-dessus. Vous tapez « Je souhaite trouver un restaurant à Londres », par exemple. Vous avez des résultats, vous cliquez et au bout d'un certain temps, vous trouvez ce dont vous avez besoin. Donc, si c'est un excellent moteur de recherche tel que Google, eh bien, les résultats, les informations vous viennent assez rapidement. Mais vous donc cherchez un petit peu dans les différentes histoires qui vous fournissent des informations. Et puis, à d'autres moments, nous avons des informations très précises que nous utilisons, par exemple, les URL qui sont très longs et pas forcément faciles à comprendre. Donc, elles peuvent être longues, un nom de domaine avec US ou UK, point, Londres, etc. Barre oblique, autre chose. Ou alors, vous allez être redirigé. Donc, il y a des choses assez courtes qui ont l'air d'être relativement humaines, mais après, le reste, c'est tout un tas de lettres, et bon. Alors, je reviens à mon exemple de la Costa Rica, du Costa Rica. Donc, au début, on se dit, bon, alors, pour trouver ces informations, voilà, vous y arriverez, ou alors, vous allez avoir un identifiant que personne ne se souvient, qu'on n'a jamais sur soi, et donc ça, c'est les grands URL qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, lorsque je pense au programme des nouveaux GTLD, je me dis que ceci représente une opportunité. Plutôt que de reformuler la façon dont les gens pensent aux choses, donc l'utilisation des noms de domaine, d'identifiants, cela représente plusieurs caractéristiques. Premièrement, ils sont faciles à lire, donc on le comprend au niveau humain. Deuxièmement, c'est facile à il est difficile d'oublier, donc si vous voyez par exemple une affiche, quelqu'un vous dit le nom, vous allez vous dire « Ah oui, d'accord, je m'en rappelle » et vous pourrez le retrouver plus tard. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est significatif, ce n'est pas toute une série de lettres qui, à côté des autres, donc font quelque chose. C'est vraiment donc une manière de pouvoir s'identifier avec la question. Et il est possible d'utiliser les noms de domaine pour faire ça parfois. Donc, si vous allez sur le google.uk, par exemple, vous allez avoir la version Google du Royaume-Uni. Ou alors, si vous voulez acheter un billet d'avion sur BA, eh bien, vous allez pouvoir trouver votre billet d'avion directement. Ou si, par exemple, je ne sais pas, moi, je venais du Maroc, je ne sais pas, à ce moment-là, vous arrivez donc à cette version du site. Mais il serait plus facile. Et je ne sais plus d'ailleurs qu'est-ce que c'est le TLD du Maroc. Mais bon, peu importe. C'est MA, merci. C'est ça. En fait, c'était une question test. De la même manière, si vous allez sur google.cat, vous allez avoir la version catalogue de Google. Donc, on sait que catalogue, c'est l'identifiant qui nous permet d'avoir accès aux ressources catalogue. Donc, là, vous avez les informations directement sans avoir à faire une recherche. Si vous allez sur google.jobs, en anglais, donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver un travail dans Google. Donc, tout ceci correspond à ces critères. Si vous parlez anglais, vous pouvez regarder tout ceci, voir un petit peu comment ça fonctionne. Google.jobs, c'est donc un site de job, donc d'emploi. C'est quelque chose dont je me souviens. Je vois que c'est Google plus job, donc forcément, ça a une signification. Et puis, je sais aussi que je vais tomber sur un site qui sera beaucoup plus évident, beaucoup plus clair. Je ne vais pas tomber sur autre chose. Donc, voilà un petit peu pour moi ce qui représente le pouvoir de ces nouveaux GTLD. Et comme vous le savez, Google a demandé énormément de beaucoup nouveaux TLD. Et donc, j'aurai d'autres histoires à vous raconter. Et donc, à la base, au début, on imposait ce qu'on... nous, on s'était dit, on va demander Google, Chrome, Android et YouTube. Donc, vous voyez beaucoup de marques qui ont fait exactement ça. Ils ont fait la demande pour leur marque. Nous allons donc, en fait, établir notre présence. Et on va en parler un petit peu plus dans une minute, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais Larry nous a dit, écoutez, c'est dingue, l'Internet est en train de changer. Google doit faire partie de ce nouveau mouvement. Donc, en fait, on s'est rendu compte, on a eu un programme beaucoup plus important pour justement correspondre à ces besoins. Alors, je crois qu'il y a 4 moyens qui, à notre avis, permettent de changer la façon dont les gens auront accès au contenu avec les TLD. Donc, premièrement, le nom de domaine en lui-même, c'est une amélioration, déjà. Il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors, les IDN, c'est un excellent exemple. Donc, le Damina, c'est donc le japonais pour tout le monde. En fait, c'est le nouveau, le premier TLD japonais IDN. Donc, les Japonais peuvent se rendre là-dessus. Et donc, il n'y aura que des caractères japonais. Donc, ceci améliore la capacité à lire ce nom de domaine. En tout cas, pour les gens au Japon. Donc, ces domaines peuvent tous être lus beaucoup plus facilement et utilisés plus facilement. De la même façon, il y a des TLD, par exemple, comme point photographie. Vous savez sans doute, simplement en le voyant, de quoi il s'agit. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à faire pour créer davantage de signification. Et ensuite, deuxième niveau, il y a des TLD qui vont créer une impression, qui vont aider les gens à comprendre la communauté qui est autour de ce nouveau TLD. Donc, nous avons demandé un TLD .soy, donc .soja. Et donc, la cible est assez similaire. Donc, notre vision avec le soja, c'est qu'il y a énormément... soy pour « suis » en espagnol, « je suis ». Donc, il ne s'agit pas de soja, mais d'être. Donc, c'est en fait pour créer une présence... pour le monde hispanophone, pour les sites web hispanophones, sans être obligé de naviguer et d'essayer d'atteindre la partie espagnole du site web. Donc, pour le faire, il faut qu'on aide les utilisateurs à comprendre ce que cela veut dire. Il faut que l'équipe marketing soit d'accord, adhère à cette idée. Donc, on travaille avec des gens qui travaillent dans le marketing justement pour bien comprendre quelle est leur attente par rapport aux utilisateurs, par rapport au fonctionnement de ce nouveau TLD. Et troisième façon, c'est aussi la valeur ajoutée. Donc, il y a des TLD qui existent comme Gov et EDU aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez enregistrer ce TLD que si vous êtes un certain type d'institution, etc. Donc, par exemple, EDU, vous allez trouver une université. GOV, vous allez trouver les unités gouvernementales, etc. Donc, ceci est utile. Et j'imagine que vous savez que nous avons CSU, etc. Donc, maintenant, les demandeurs, les titulaires peuvent obtenir ceci. Et donc, le client saura immédiatement où est-ce qu'il va. Et donc, dernier concept, la dernière chose que l'on peut faire, et donc ça, je pense que ça représente une grosse opportunité, c'est d'ajouter la fonctionnalité au domaine, en plus de la signification. Donc, souvent, la manière dont on en parle, c'est point blog. Nous avons demandé ceci, comme beaucoup d'autres, mais donc actuellement, si on enregistre un blog et que l'on se rend... Si, par exemple, moi, j'ai un lien sur mon compte vers un blog, il faut que je connaisse un petit peu le DNS, il faut que je demande à mon bureau d'enregistrement, c'est très compliqué. Alors, l'intérêt, c'est que lorsqu'on s'inscrit sur un blog, on a un URL qui correspond au blog. Et donc, nous avons déjà discuté avec, par exemple, différentes personnes, Tumblr, WordPress, pour avoir différentes... manière d'installer votre serveur pour que la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'avoir votre URL de blog et automatiquement, vous êtes prêt. Donc, ça, c'est très utile pour moi lorsque je fais mon installation, mais aussi toutes les personnes qui vont naviguer vers ces choses, ils vont savoir qu'à chaque fois, il y aura le blog au bout du compte. Donc, c'est très utile. Et c'est très significatif. Donc, c'est la même chose avec le point food, point nourriture. Vous imaginez, si vous aviez un TLD qui était conçu pour ceci, ça pourrait servir à quelque chose. Si à chaque fois, il y avait un code qui permet non seulement de faire fonctionner le site web, mais donc, avec les nouveaux TLD, on crée de nouvelles expériences, de nouvelles significations pour ces noms de domaine.
Nous sommes vraiment très contents de travailler avec tout ce qui va venir et de pouvoir en parler plus lors de la session questions-réponses. Alors, j'ai parlé bien trop longtemps, mais j'ai quelques minutes pour faire la conversation. La stratégie Google, les gens sont intéressés. Notre CEO et nous fait des grandes conversations sur cette stratégie. Et mercredi, on en parlera. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent venir. Et vous pouvez entendre parler de ce sujet, de tout ce qu'on va faire mercredi. Vous pouvez venir donc nous rejoindre, je crois que c'est à 9h. 21h 9 p.m. Durant le gala, 21h donc. Cyrus, merci Jordan. Oh, pardon, je m'appelle David Green, donc David Green au micro. Je travaille pour KPMG, un des services personnels professionnels les plus importants au monde. Nous travaillons avec 50 et quelques pays et les gens me disent « qu'est-ce que vous faites ?» Et je dis « je travaille pour une ferme, une compagnie qui a beaucoup de contenu et aussi je travaille dans le marketing numérique. » On me dit « ah, c'est très intéressant. » Les gens me demandent, par exemple, je travaille donc pour KPMG. Je suis aussi au conseil général, au conseil d'administration de Brand, du groupe Brand. Donc, on fait partie de la spécificité numéro 13 pour les contrats, ICANN. Et on travaille pour les codes pays, les extensions géographiques, etc. Et c'est ma deuxième fois, j'ai déjà parlé il y a 2 ans sur un panel ICANN, quand la liste de domaines avait été révélée. Donc je suis très heureux d'être au retour sur le panel ICANN. Point KPMG me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre domaine? Je leur dis, lequel? Nous allons avoir des milliers. Parce que KPMG n'a pas fait une application, une candidature pour un nom de domaine. Nous avons demandé un droit de faire fonctionner notre propre registre de base de données. Cela veut dire que nous avons fait une étude de faisabilité pour voir quel était l'impact fiscal, juridique à long terme. Et si vous voulez passer à la prochaine diapo, merci. Donc, en général, quand le programme a commencé, c'était dominé par la conversation avec des avocats sur la propriété intellectuelle. Et les commentaires que l'on recevait étaient sur les attributs Brown, les clients, la facilité d'adressage, d'authentification, et ainsi de suite. Tous c'était tous les bénéfices tangibles. Mais cependant, être opérateur d'un registre de GTLD, ça fait partie de l'Internet, de l'infrastructure Internet. Cela donne des avantages techniques aussi. Donc, il y a 3 catégories importantes de GTLD. Il y a les fermés. Donc, il y a eu 600 candidats. Il y a ceux qui sont ouverts et restreints. Et il y a celles qui sont ouvertes. Chacune de ces catégories ont des gens dans ces catégories, ont des motivations différentes. En général, c'est déterminé par les acteurs dans l'industrie des noms de domaine. Et c'est une expansion du marché des domaines existants. Nous allons pouvoir vendre beaucoup, beaucoup plus de noms de domaine. Le modèle commercial est très similaire, c'est une extension de business comme d'habitude, mais en fait ce n'est pas le cas. Moi, à mon avis, c'est le registre Brown fermé, c'est là où il y a plus d'incentives pour amener de l'innovation. Si vous voulez bien continuer avec les diapos, mais tous les gens, tous les rôles, tout le monde devra investir dans le marketing et les innovations pour se faire connaître. Et c'est encourageant de voir que Google en parle, parce que c'est les gens comme Microsoft, Google, Yahoo, entre eux, ils ont placé des candidatures, beaucoup de GTLD. Ça va faire une différence très, très grande au niveau de la connaissance, de la reconnaissance du public. Nous allons passer à une vidéo de 3 minutes qui va parler des opportunités des GTLD. Quelle est la plus grosse possibilité dans le DNS? Vince Cerf au micro. L'expansion de l'espace et le changement, dit Leslie Carley, 50% de la population sera en ligne dans les 4 années à suivre et encore plus à venir dans l'avenir. C'est un gros changement de technologie qui se développe sans arrêt. Steve Crocker, beaucoup de croissance, beaucoup d'innovation. Une exploration de nouveaux modèles commerciaux et nouvelles utilisations de DNS qui n'ont jamais été vues auparavant. David Green, avec l'augmentation et la croissance des outils Internet, qu'ils soient des téléphones, des ordinateurs ou même des choses qui se trouvent dans la maison ou dans les usines, tout ce qui sera connecté et intelligent sur la toile. Et Windsurf, la plus importante, c'est que ces extensions qui soient utiles. L'histoire des GTLD est très générale. Frank Schilling, domain name. Les noms de domaines sont compliqués. C'est pas facile d'enregistrer des noms et d'héberger des services et de gérer. C'est tellement plus facile pour les consommateurs sur la toile d'aller à Facebook, sur Twitter et de faire un compte et d'utiliser ces outils-là. Donc, il y a eu beaucoup d'innovations. Windsurf. Ce qui est proposé maintenant, depuis 2000, les 2000 qui sont proposés maintenant sont beaucoup plus spécifiques. Et on se demande quelle est l'utilité de ces choix. Laurie Ann Wardy, c'est l'âge où le client, c'est l'époque où le client a du pouvoir. Regardez toutes les industries, la musique, les publications, le téléphone, les gadgets, l'automobile, et la liste continue. Tous ces gens donnent le pouvoir au client. On trouve cela dans toutes les industries, même si le point com n'est pas immunisé à la grande force de destruction de l'influx de l'innovation de point, n'importe quoi va créer. L'autre intervenant, dans tous les mondes, on peut voir comment les noms vont être utilisés. C'est une grosse opportunité pour beaucoup de monde dans l'industrie du DNS. La plus grosse opportunité, dit l'autre intervenant, c'est les nombres en série, l'augmentation d'Internet, l'augmentation des outils, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, ou même encore tous les outils qu'on trouve à la maison, dans les usines, qui seront connectés à une toile plus intelligente, va permettre à tout le monde d'être au même niveau sur cette planète. Donc, il y a vraiment une opportunité. Il va donc falloir travailler avec des organisations privées pour pouvoir avoir des opérateurs de registre plus sécurisés. On espère que les dates de données sera utilisées de façon correcte. Chaque code sera un nombre unique, qui sera utilisé pour sécuriser l'accès. Windsurf, il faut voir comment les choses seront utilisées pour rendre l'Internet, l'espace d'Internet social est valable pour les utilisateurs. L'autre personne, plus d'utilisateurs en ligne, plus de clients, plus de technologies, il va falloir que nous changeons pour répondre à ces demandes. encore une fois, dit l'intervenant, en écoutant ces speakers, vous voyez que c'est l'extension, mais c'est aussi la focalisation, comme disait Vince, comme disait Jordan, sur l'Internet qui change. L'infrastructure qui sera utilisée et les autres façons de faire les choses. Il y aura d'autres technologies comme l'encryption qui sera utilisée. Pour cette industrie, je pense qu'il y aura une stratification des fournisseurs, les services de services, les plateformes de services, tous les RSP et toutes les infrastructures de services. Certaines opérations vont être les mêmes parce que leur focalisation est de vendre des domaines et ce sera des extensions de ce qu'ils font déjà, mais d'autres vont essayer de changer la chaîne de valeur et développer des services additionnels pour leurs clients, par exemple, des réseaux sociaux plus sécurisés. Toutes ces choses sont sur la diapositive que j'ai à l'écran. Même les TLD existants seront impactés par ces concurrents. Nous devrons donc aiguiser nos opérations. Prochaine diapositive. En tant qu'industrie, l'industrie du DNS, c'est un peu... Pour la première fois, les gens sont plus habitués de faire des enregistrements des DNS. Donc, ils vont regarder à l'ICANN ou même le DNS at large pour essayer de les aider à naviguer à travers tous ces problèmes. Et nous allons donc voir s'il y a de la flexibilité dans ce domaine. Une des choses où j'étais déçue, c'est j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul fournisseur de services qui est Google. Et pour la deuxième lancement d'application, il y aura beaucoup plus de candidatures. Parce que maintenant, tout le monde saura. Parce que 180 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ça augmente la sécurité. Il faut augmenter la cybersécurité. Tout augmente. Donc, il y aura des nouveaux modèles commerciaux, nouvelles façons d'utiliser le DNS, des programmes qui vont améliorer l'utilité du DNS. Et moi, ça m'intéresse de voir ce qu'on va voir dans les prochaines années. Cyrus, merci, très bien, merci à vous, à tous d'entre vous. Beaucoup d'informations très diverses, si on peut dire. Nous allons donc commencer notre discussion alors que vous digérez toutes les informations qu'on vient de vous donner. Je voudrais revenir à Dirk, pour nous éduquer un peu comment est-ce qu'un GTLD géographique est différent d'un GTLD générique. Quelle est la différence? Par exemple, qu'est-ce que ça apporte aux visiteurs d'une ville? Ce que je peux vous dire en premier, c'est que les TLD avec extension géographique telles que .Paris, .New York, etc., sont très différents des GTLD, des génériques, parce qu'ils ne sont pas vraiment génériques, ils sont plus comme des CCTLD. Du côté de leur gouvernance, de leur contrat, les TLD géographiques sont basés, répondent à une autorité locale et c'est différent au niveau contractuel. Donc, du côté du citoyen, pour le citoyen, c'est une identité, cela représente une identité. Une identité qu'il lui aurait à porter. Et dans ma vie de tous les jours, quand je dis parle des domaines avec des villes, elle me dit c'est pas possible, c'est incroyable. Et on sent que les gens sont satisfaits quand on leur parle de cette chose-là. pour les gouvernements des villes, pour les gouvernements régionaux. Par exemple, dans le cas de Berlin, je vois quelque chose qui n'a pas été fait par les CTLD. Les CCTLD, je ne les ai pas vus utilisés pour du marketing des endroits, des pays, des régions. Au contraire, on a beaucoup de CCTLD qui font tout pour éviter qu'ils soient associés avec un pays parce qu'ils ont des demandes, ils font des demandes très, très strictes. Donc, les gens de l'extérieur comme .com, .net, .tk, ces autres DNS, approchent ces gens-là au lieu des CCTLD. Donc, je pense que c'est une perte d'identité régionale. C'est quelque chose que nous peut donner à la ville de Berlin, par exemple, une identité numérique à ses citoyens. Et ça permet d'aider dans le marketing pour l'endroit spécifique, pour un endroit spécifique. Mais parce que, donc, il y a de la concurrence, par exemple, entre Berlin, Moscou, Sydney, Silicon Valley. Donc, encore une fois, c'est une compétition, une concurrence. Les noms de domaine pour les villes donnent une destination unique, une proposition unique de destination. Parce que, par exemple, dans cette première étape, on a vu seulement un couple de grandes villes et de métropolises qui ont ces TLD. À Berlin, nous avons été dans une très bonne position. Nous avions des priorités un peu moyennes, mais nous avons rendu ce nom connu à travers le monde. Nous avons ouvert l'enregistrement au public et cela a donné un grand élan de redonner à la ville de Berlin, puisque nous sommes fiers de ce succès. Mais la tâche la plus importante, c'est d'éduquer les citoyens et tout le monde dans les villes pour leur dire qu'ils ont ils ont possibilité d'avoir leurs propres identités. À Berlin, la ville a été réunie en 89, encore une fois, et nous avons vu que ce projet de Point Berlin a un petit peu aidé à la réunification de cette ville. Nous en sommes très fiers de ce côté-là.
Merci, Dick. Si vous souhaitez faire part de votre point de vue avec l'auditoire, n'hésitez pas à prendre le micro. Entre-temps, moi, je voulais poser une question au panel qui m'a été posée et qui me reste un petit peu coincée dans la tête. Et Jordan, je crois que vous en avez parlé un petit peu déjà. La question qu'on m'a posée, et je n'ai pas vraiment de réponse très claire là-dessus. Est-ce que, donc, vous savez que les gens utilisent de plus en plus des dispositifs mobiles, des applications, et donc pour se rendre d'un endroit à l'autre dans l'environnement numérique. Est-ce que le fait d'avoir un nouveau TLD ou un autre TLD est vraiment important? Est-ce que la nécessité d'accès à ces services ne changerait pas, étant donné les dispositifs qui existent déjà? Quel va être l'impact, en fait, sur le programme des nouveaux GTLD? Alors, nouvel intervenant, je travaille dans le marketing numérique. Donc, justement, je travaille dans le domaine des applications. Je crois qu'il y a une certaine authenticité en termes d'identification de la marque, en termes d'une adresse claire sur l'Internet. L'Internet continue de se diversifier, de s'élargir dans un écosystème très riche avec différents types de canaux, de technologies. Et donc, en partie, ceci peut être un petit peu difficile à comprendre. Et puis, il y a aussi le problème du cybercrime, etc. Et la base du cybercrime est les fausses associations, donc la redirection du trafic. Et en un sens, je crois que le fait d'avoir des adresses claires, authentifiées, bien énoncées grâce au nouveau GTLD est positif, à mon avis, pour le public. Jordan au micro. Je crois que ceci revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut revoir un petit peu la façon dont nous utilisons les noms de domaine, donc les rendent beaucoup plus lisibles et compréhensibles et significatifs. Donc il y a toujours, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'on est sur l'autoroute, vous voyez un signe qui vous dit où aller, ou alors j'ai vu tel documentaire, voilà, tu peux le regarder, il est là. Et donc c'est un petit peu ça, c'est le pont qui vous permet d'atteindre les informations dont vous avez besoin. On est toujours en ligne et vous avez des hyperliens qui fonctionnent bien. Vous êtes déjà sur la page web, vous cliquez sur le lien, c'est bon, ça marche. Les ordinateurs savent très bien communiquer, quels que soient les identifiants. Mais la question, c'est que se passe-t-il quand on n'est pas en ligne et qu'on veut commencer par une information que l'on a dans la tête pour atteindre ce dont on a besoin. Donc, c'est là que, à mon avis, vous allez créer des espaces beaucoup plus lisibles, beaucoup plus clairs. Et donc, vous allez simplement avoir 10 caractères dans l'adresse. Vous allez, par exemple, aller dans n'importe quelle société.jobs et vous arrivez toujours à la liste des emplois qui sont proposés dans cette société. Vous arrivez toujours à la bonne page. Par exemple, Soy, l'exemple que je donnais tout à l'heure, ce sera toujours une page en espagnol. Donc, c'est ce qui vous permet d'arriver à ces lieux de manière efficace. Donc, je pense que tout à fait, les applications ont changé la façon dont les gens utilisaient l'Internet, mais les applications, c'est une relation à long terme. Ma banque, d'accord, je vais toujours dans la même banque, donc j'ai une relation à long terme. Et effectivement, avoir une application pour ça, c'est bien en termes d'accès de contenu plutôt que d'aller à chaque fois sur le site web, de m'inscrire, etc. Mais si simplement je cherche des informations sur le restaurant que je viens de voir en voiture, je vais voir le menu. Donc, la seule chose que j'ai à faire, le nom du restaurant, point menu, c'est très pratique. Je ne vais pas télécharger l'application. J'en ai pas besoin. Donc, le nom de domaine est un mécanisme qui permet d'avoir un accès rapide à ces informations plutôt que d'avoir des relations très approfondies, pour ainsi dire, qui sont fournies par les applications. Alors, Dick, on peut aller même encore plus loin par rapport à ce qu'il dit. Nous avons tous des noms. Nous portons tous un nom. Et donc, c'est quelque chose qui nous identifie. C'est la même chose. C'est vraiment le nom de la chose, de la personne et des sites web également. Ça a vraiment une signification. Nous avons inventé ces noms au sein d'ICANN, au sein du DNS. Et je crois que c'est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Si vous avez une meilleure idée par rapport à la façon dont on va nommer les sites web, eh bien, n'hésitez surtout pas, parce que nous les avons inventés, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que nous avons conservé ce que nous avons choisi, tout comme moi, je garde mon nom propre qui m'a été donné. Sophie, au micro. Alors, par rapport à ce qui a été dit, justement, je crois que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication par les canaux numériques de marketing. Et je crois que les noms, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vraiment une création qui est humaine, qui fait partie des cultures humaines et qui a toujours une signification précise. Et tant que les gens communiquent, eh bien, les noms restent importants, pertinents. Cyrus au micro. Je voudrais inviter l'auditoire à participer. Si vous avez un commentaire, si vous avez des questions ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment qu'il y ait une discussion entre nous. Amadeo, où est-il? Allez, vous n'êtes pas encore assez préparé. Bon, je vais revenir à quelque chose que David a dit en termes d'authenticité. Et j'aimerais, en fait, me faire l'avocat du diable. J'aimerais remettre en question l'hypothèse selon laquelle cela met vraiment un sceau numérique sur la marque, l'authenticité de la marque. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça avec les TLD génériques? Autre intervenant. vous pouvez enregistrer votre TLD, faire ce que vous souhaitez avec. Actuellement, toutes les marques ont une relation contractuelle avec leur domaine. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont très focalisées sur l'Internet et d'autres non. Il y en a beaucoup qui essayent de voir un petit peu quel est l'impact de cette centricité sur le numérique pour leur travail. Il y a certaines entreprises pour lesquelles cela représente des millions, des milliards de dollars. Et tout ceci se cache derrière ce que vous avez enregistré auprès du bureau d'enregistrement. Cela fournit beaucoup plus de stabilité pour cette marque, le fait de posséder ceci. Et puis également en termes d'innovation, si vous considérez certaines des préoccupations relatives à la croissance des revenus, les changements technologiques, il y a différentes façons de soutenir ces différents domaines de travail, l'innovation, le service à la clientèle. Donc, de plus en plus, les processus peuvent être centrés sur le numérique. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à posséder son propre registre. C'est quelque chose qui n'existe pas actuellement. Jordan au micro. Il y a effectivement des programmes qui sont tentants. Parfois, on voit les gens qui utilisent des services qui fournissent donc un service d'authentification. Vous pouvez mettre telle et telle chose sur votre site web. Bon, il est relativement facile de fausser ce genre de choses, de faire de la contrefaçon. Ensuite, on se retrouve dans des questions de marques de commerce, de contrats, etc., pour dire aux gens d'arrêter d'utiliser des choses qui sont protégées par la protection intellectuelle, etc., par la propriété intellectuelle. Donc, il n'y a rien qui arrête qui que ce soit, si ce n'est que, bien sûr, on va les poursuivre en justice. Donc, mais les gens peuvent le faire. Dans le contexte d'un TLD, par contre, vous savez qu'on cherche toujours cette fin, ce dernier mot. Donc, personne ne peut s'approprier ces choses sans avoir obtenu cette autorisation. Donc, il y a un sceau d'authenticité qui est incorporé à l'expérience. Ce qui est également très intéressant en ce sens, je ne sais pas si vous avez eu les nouvelles, mais Apple change la façon dont Safari a accès aux URL. Vous allez uniquement avoir la partie du nom de domaine. Donc, après la barre oblique, c'est terminé. Vous n'avez plus rien. Donc, la façon dont on communique les informations, eh bien, doit se faire dans le nom de domaine, non plus dans l'URL. Donc, par le passé, on aurait pu, par exemple, avoir un site web avec la marche, barre, nom du concessionnaire ou je ne sais quoi, ou barre, montre, je ne sais pas. Maintenant, on est obligé de le faire dans la partie de nom de domaine. Donc, le timing est bon, là, par rapport à notre progrès, puisque nous avons maintenant une plateforme, justement, qui ouvre la possibilité de changer l'approche qu'ont les gens des noms de domaine. Merci beaucoup. Je ne vois toujours personne au micro. Donc, je vais... Alors, Cyrus au micro. David a mentionné quelque chose tout à l'heure, et je ne sais pas si vous y avez tous pensé, mais avec ce nouveau programme, ces nouveaux GTLD plutôt, la composition de l'industrie change de manière très très profonde. Avant, on vendait des domaines, c'était une question d'échange, de vente, d'acquisition de noms de domaines. Maintenant, je crois que l'aspect commercial va changer. Encore une fois, on va passer de 22 GTLD à des centaines. Et bien sûr, les marques sont très impactées par ceci, avec un certain nombre d'exigences qui sont différentes de ce qu'on connaissait avant. Et donc, on pourrait peut-être en parler un petit peu plus et essayer de développer en termes d'opportunités, ce qui va se passer pour les gens justement qui travaillent dans ce secteur, étant donné que l'environnement change. David. Alors, David, oui, je crois que effectivement, puisque l'environnement change, il y a de nouvelles opportunités et je crois que les différents acteurs, qu'il s'agisse des opérateurs de registres, des revendeurs, des fournisseurs de services, ils ont une opportunité fantastique actuellement de commencer à soutenir ces candidats de marque fermée et il va y avoir une couche supérieure au sein de l'infrastructure. Et si les fournisseurs de services, de registres ne le font pas, eh bien, ils vont être évincés par les start-up, par les géants de la technologie qui vont prendre la place. Il y aura des milliers de marques qui vont faire des demandes lors de la deuxième vente. Et donc, le processus est très cher, est très clair, pardon, pour ce qui est des avantages stratégiques. Et en soi, ceci crée un marché massif pour les services supplémentaires qui représentent donc une couche supérieure. Donc, les fournisseurs de services de registre devront repenser la partie de consultation de leur entreprise, de leur travail, le développement, mais également, ils vont devoir développer de nouveaux logiciels. Donc, il y aura des gens qui vont choisir différents modèles de travail, j'imagine. Alors, je crois que ce que j'ai vu dans les... Pardon, Sophia au micro. Ce que j'ai vu dans certains pays de Chine, d'Asie, de Chine, il y a un changement au niveau des fournisseurs de services de registre. Et effectivement, dans leur travail... Je sais qu'il y a la question de la protection des droits de la propriété intellectuelle qui doit s'améliorer, mais dans les pays en voie de développement, de toute évidence, ces droits ne sont pas aussi respectés que dans les pays développés. Et dans les pays d'Asie, nous avons énormément de commerce électronique qui, de plus en plus, fait partie de notre PIB, devient de plus en plus important. Et donc, la protection des marques est devenue un sujet très important dans notre discussion. Et les nouveaux GTLD représenteraient la solution parfaite pour certaines de ces entreprises, certaines de ces marques. C'est quelque chose que ces marques pourront utiliser, incorporer pour devenir plus efficaces dans leur marketing, ainsi que pour... se protéger. Et je crois que ce que l'on voit pour le service des registres, la protection de la marque est importante et vitale afin qu'ils obtiennent davantage de clients. Donc, ils doivent en faire la publicité. C'est quelque chose qui, de plus en plus, comment dire, avant, les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de registre ne pouvaient pas garantir cette protection. Mais maintenant, si on rationalise le processus, si on leur dit que l'on peut justement fournir davantage de valeur dans ce domaine aux marques, eh bien, cela représente un avantage pour eux. Je crois que les nouveaux GTLD... Dire qu'au micro, les nouveaux GTLD deviennent de plus en plus étendus dans le monde, répartis dans le monde. Et je crois que ce secteur est relativement nouveau, mais nous pouvons beaucoup apprendre beaucoup de choses, par exemple, dans le secteur du détail. Lorsqu'on enregistre un nom de domaine, et cela est toujours vrai pour beaucoup de candidats nouveaux, le fait d'enregistrer son nom de domaine, à la fin de la journée, il se retrouve avec un email où il faut confirmer son identité parce qu'on est nouveau. Donc, l'enregistrement des nom de domaine va devenir beaucoup plus facile, comme d'ouvrir une page Facebook. Il y a vraiment des opportunités pour les bureaux d'enregistrement, pour les opérateurs de registre, de créer des services améliorés qui existent déjà autre part dans l'industrie. Je crois que nous pouvons en fait améliorer la façon dont nous fonctionnons dans notre secteur. Moi, j'irais au-delà du secteur des noms de domaine. Je crois que les domaines, ce sont des infrastructures, ce sont des moyens d'obtenir le contenu. Nous pouvons accélérer les choses, nous pouvons faciliter les choses, les rendre moins plus sécurites, mais je crois que notre secteur est énorme. Le secteur des noms de domaine sera toujours un petit aspect de ceci, mais la logique, c'est de savoir comment est-ce que nous allons aider les autres, comment est-ce que nous allons aider les autres entreprises qui souhaitent faire leur travail de manière plus efficace. Donc la notion de pouvoir enregistrer des noms de domaine plus rapidement, c'est bien, mais les développeurs, je l'ai mentionné à la fin de ma présentation initiale, comment pouvons-nous combiner les noms de domaine avec les fonctionnalités? Donc les développeurs devraient y penser à ça. Au fait que chaque TLD, point photographie, je ne sais pas, il y a un développeur qui peut construire une application qui est incorporée à ceci et fournir une expérience photographique extraordinaire. Donc avoir de nouvelles technologies qui se rajoutent en fait en conjonction avec le nom de domaine. La deuxième chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est que pensez au mobile. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on ne comprend pas vraiment aujourd'hui quelle est la correspondance des noms de domaine et de l'écosystème mobile. Et c'est très facile de se dire, pour ICANN, pour nous dans cette salle, la façon dont les noms de domaine sont en interaction, parce que tous nous connaissons les ordinateurs. C'est la première chose que nous avons utilisée. Et après, nous avons utilisé les dispositifs mobiles. Mais si vous regardez un petit peu les 2 milliards d'utilisateurs futurs, eux, ils ont d'abord utilisé des dispositifs mobiles et après, ils ont eu accès à un ordinateur portable. Et donc, leur interaction avec l'écosystème des noms de domaine est complètement différente. Et donc, pensons un petit peu à ces opportunités et à ce que vous faites lorsque vous êtes sur un dispositif mobile. Quelle est votre présence en tant que nom de domaine lorsque vous utilisez votre dispositif mobile? Peut-être que vous prenez une photo de votre magasin tous les jours. Donc, et tout ce que fait votre nom de domaine, c'est simplement de montrer vos dernières photos. Donc, il y a tout un tas de possibilités en termes technologiques qui sont liées à ces noms de domaine. Et je crois que ça peut vraiment apporter quelque chose. Et c'est là qu'il faut regarder les opportunités, qu'il faut voir ce que non seulement nous pouvons faire dans notre secteur, mais ce que nous pouvons permettre aux autres secteurs de faire.
Cyrus, merci Jordan. Ce que vous dites, c'est qu'en additionnel de l'écosystème qui existe déjà, cette espèce d'effet qu'il y aura est très important. Nous avons un membre de notre auditoire qui est au micro. Peter, je viens de Belgique, je suis belge pour un magazine en IT en Belgique. J'ai une question pour Dirk de Point Berlin. Pouvez-vous nous donner un peu d'idée des commerces, des entreprises qui sont enregistrées avec Point Berlin? Et quelles sont les questions qu'ils ont? On a parlé qu'il y aura des nouveaux endroits, des nouveaux commerces, des nouveaux cas commerciaux. Est-ce que vous voyez cela dans le cas de Point Berlin? Est-ce que vous pouvez élaborer? Comment est-ce que ça se passe? Vous avez juste lancé cela, donc on voudrait savoir ce que les autres peuvent s'attendre, à quoi les autres peuvent s'attendre. Dirk, au micro. Oui, c'est intéressant. Nous avons fait des analyses des 50 000 noms qui ont été enregistrés au départ. Et nous avons conclu ceci. La plupart des noms sont enregistrés par des petits comme des PME. Des PME, parce que les entreprises qui sont derrière les noms de domaine, 40 ou 50% de ces noms de domaine ont été enregistrés par des gens qui sont leurs propres patrons ou des petits ateliers, des journalistes, enfin des gens qui sont indépendants. et bon, des gens qui ont un ou deux employés, trois employés. Donc vraiment, c'est le groupe qui est ciblé par le domaine Point Berlin. Le premier projet qui nous est arrivé, ce que nous avons vu il y a quelques jours, un bloc d'intérêt tel que des sites web, quelque chose qu'on pouvait se rassembler ou mettre en place très rapidement avec un nouveau donne. On ne savait pas, on ne sait jamais tout de suite si son nom va être encore libre et si on peut l'obtenir. Donc, si vous pouvez l'obtenir, vous pouvez mettre en place un site web assez rapide. Donc, les projets qui étaient anticipés étaient ceux-là. Nous n'avons pas eu tellement de grosses demandes. C'est des petites demandes, des projets qui nous venaient, des projets qui arrivaient comme ça, de but en blanc. Nous avons FIFA ou un championnat, un stade par exemple. Dans ce stade, tous les gens, ont emmené tous leurs sofas dans leur stade à Berlin pour venir voir les matchs de foot. Les gens ont porté leurs propres sofas et se sont assis au milieu du stade pour voir les matchs de football sur un grand écran. Donc ça a été un des noms publics qui a été enregistré et qui était sur tous les posters et toutes la publicité. Donc ces idées là comme ça qui sont arrivées, disons, de but en blanc. Au micro, Michael Plage. Cette question est pour vous, Cyrus. Quand on a écouté Jordan des quatrième catégorie de TLD, la fonctionnalité, et ainsi de suite. Mon inquiétude, c'est par rapport aux protections contractuelles. Il faut que ce soit fondé, financé par l'opérateur de registre. Quand on regarde aux deuxièmes opérateurs de registre et leurs accords, il y a des étapes qui étaient fournies pour gratuitement. Tous les autres doivent payer. Alors, quand on regardait, il parle des étapes R. Il y avait les PIR, les IDN et les deux caractères, ces étapes R étaient de $70,000, à peu près $70,000. Alors qu'on parle d'innovation, et quand on parle de $70,000 pour Google, c'est pas beaucoup. Mais pour les nouveaux opérateurs de registre, c'est beaucoup d'argent. Donc ma question, c'est où mon défi à ICANN, c'est alors que vous regardez les revenus de vos propres enchères, est-ce que vous pouvez allouer cet argent vis-à-vis des étapes R pour aider cette innovation dont vous parlez dans la quatrième catégorie de TLD dont Jordan a parlé? Cyrus, oui, merci, Michael. C'était moi qui devais poser la question et pas poser les questions, pas les répondre. J'ai bien compris. Amadé, on n'était pas là, donc j'ai dû poser une question pour lui. Cyrus, oui, je resterai après cette discussion pour vous parler de cela. C'est une très bonne suggestion. Nous, avec le personnel, nous savons très bien quelles sont les dépenses des demandes de R. Donc, nous faisons très, très attention à ces coûts. Nous voulons pas dévier de la discussion. Nous commencions juste à avoir une bonne discussion sur la division pour le... Nous ne voulons pas dévier de notre conversation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que quelqu'un veut partager? Je vois personne au micro. Je voulais revenir un peu en arrière et j'aurais parlé à Sophia. Une des choses dont vous avez parlé quand il s'agissait des défis auxquels vous faisiez face, c'était ce que vous appeliez l'acceptance universelle des TLD. Et je suis au courant de cette situation. Je voulais mettre ça sur la table parce que au niveau de l'impact commercial, un des éléments de la réussite des programmes des nouveaux GTLD, je parle pas des TLD latins génériques, je parle des autres TLD. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Je voudrais entendre parler les autres membres du panel aussi là-dessus, mais il y a beaucoup de logiciels, de systèmes qui ne peuvent pas gérer les nouveaux types de GTLD, de TLD qui sont mis en place dans beaucoup d'aspects, quand il s'agit des emails, des routeurs et tout ça. On va parler avec Sophia en premier. Sophia, ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des problèmes universels, je pense que pour les IDN, c'est logique, c'est facile. Ce ne sont pas des TLD pratiques généraux que les gens utilisaient auparavant. Pour les utilisateurs, ne connaissent même pas les TLD IDN. Ils ne sont pas au courant. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation au marketing et sur le marché, et les utilisateurs, les consommateurs n'aiment pas les changements. Quand les choses sont déjà formulées d'une manière, ils n'aiment pas le changement. Pour résoudre ce problème, à mon avis, il faut mieux éduquer, il faut mieux communiquer de la part d'ICANN ou des opérateurs de registre ou des Internet Society pour que les gens soient mis au courant que les IDN donc existent et qu'il y a beaucoup de variétés qui pourraient être utiles au public général, public en général. Aussi, il faudrait qu'il y ait de meilleures capacités de moteurs de recherche. Par exemple, quand on a alloué les REN, l'unique REN, pour le registre, pour l'opérateur de registre, on leur a dit à nos candidats que ça existait. Ils ont essayé de marquer le nom dans le moteur de recherche. Ils ont essayé d'aller sur le site et ils n'y arrivaient pas. Donc, c'est juste un exemple commun que les utilisateurs, auxquels les utilisateurs font face depuis, ils ne sont pas capables d'utiliser et d'avoir accès au site web. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps à résoudre et beaucoup d'organisations pour résoudre les problèmes techniques et au niveau de l'infrastructure aussi. Donc, c'est quelque chose qui aidera à résoudre les problèmes de connaissance des nouveaux TLD sur le marché. Cyrus, oui, c'est un processus compliqué. Google se positionne des deux côtés. D'un côté, nous avons beaucoup de nouveaux TLD. Il y a un intérêt pour que cela fonctionne. De l'autre côté, nous avons beaucoup de produits. Nous avons des idées qui sont différentes des autres. Comment valider si vous regardez sur l'Internet, par exemple, vous voyez beaucoup d'idées de niveau de qualité, de varier pour l'acceptance IDN. Donc, cela prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour voir des cas individuels dans telle ou telle compagnie pour savoir qui est qui, trouver vraiment comment cela peut fonctionner. Ce sont des petits problèmes, des petits réglages à faire. Les IDN, c'est plus compliqué. C'est un problème beaucoup plus compliqué. Surtout comment le protocole a été développé. Et donc, pour les applications individuelles, les candidatures individuelles, c'est plus compliqué. Donc, ce sera lent, un processus lent. Tout le monde est au bord. Tout le monde doit avoir faire le travail. Et il faut faire des représentations ASCII. Il faut ensuite convertir dans le format natif. Nous voulons être des leaders. Nous voulons travailler avec tout le monde. Quelque chose que j'aimerais annoncer, c'est pas vraiment le bon mot, mais que les gens sachent, Gmail sera complètement conforme à IAI à la fin du mois. Vous pourrez envoyer vos adresses Gmail aux adresses IDN. Je pense pas qu'il y a d'autres plateformes qui soutiennent cela. Nous devons voir beaucoup d'autres plateformes qui doivent supporter cela. Mais pour l'instant, c'est une première étape. Et aussi, parce quand j'ai parlé, mon CEO va en parler mercredi. On va parler beaucoup aux développeurs pour s'assurer que les candidatures, les candidats travaillent avec les TLD. Il y aura beaucoup plus de contenu dans cette conversation, donc je voudrais que les gens nous écoutent cette discussion. Vous en apprendrez beaucoup. David Green, comme beaucoup de marques, nous aurons une phase de lancement pour les opérateurs de registre de TLD, surtout pour ce qui s'agit des adressages web, à cause des problèmes d'accès à un grand éventail de systèmes d'entreprise. Vous aurez à partager la compatibilité avec le logiciel déjà en place. Il y a des problèmes, des défis logistiques, techniques. Et je pense que, encore une fois, cela prendra du temps. Cyrus, oui, je pense en fait que ce problème d'acceptance universelle des TLD est quelque chose qui est un problème, qui est un défi qui n'est pas bien reconnu dans notre communauté. Et on doit y faire face. Je dois vous rappeler que mardi, nous aurons une session dédiée à cette acceptance universelle. Non, mercredi. En fait, c'est mercredi. Mercredi, venez participer. Nous venons de publier une feuille de route pour ICANN pour recevoir votre information et pour pouvoir continuer avec ce projet. Si nous avons quelqu'un dans l'audience, dans l'auditoire, danias.se. J'ai une question pour Point Berlin, encore une fois. Quand je regarde les statistiques, je ne sais pas si c'est vrai, le plus grand bureau d'enregistrement en 60%, et c'est une compagnie américaine domaine robot. Vous avez quelques titulaires de DNA, de nom de domaine, et est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un risque de spéculation pour Point Berlin? Est-ce qu'il y a un risque que tous les petits propriétaires de magasins vont avoir un coup de fil pour leur demander d'enregistrer leur nom de domaine? Est-ce que vous voyez où va être le risque pour vous au niveau de la réputation, de votre réputation? Dirk, bonne question. À ce que je sache, les bureaux d'enregistrement principaux sont allemands. Ils ont 70% des parts de marché. Quoique ça change un peu, nous avons deux propriétaires de domaines qui ont beaucoup de noms qui sont enregistrés. Donc, durant la semaine dernière, il y a un petit peu de d'un autre côté, nous avons vu beaucoup de noms qui ont été enregistrés la semaine dernière. La personne de micro, j'ai regardé à ntld.com. Et Dirk, je sais ce que vous dites. Tous les noms qui étaient enregistrés la semaine dernière nous donnent un peu une idée quel est l'espace de nom pour un nom de domaine de ville. En général, nous avons 60 millions de .de. Et je me demande ce qu'ils ont de... Quand je regarde leurs noms, on voit qu'ils sont logiques. Et nous avons 140 000 à Berlin pour l'instant. Et puis, il y a encore du potentiel pour à peu près 1 million de noms de domaine avec Point Berlin. Je pense qu'il y a donc assez d'espace pour que tout le monde puisse trouver un bon nom de domaine. Donc, oui, il y aura certainement une certaine spéculation dans cet espace comme Point Berlin, mais si vous avez un TLD où il n'y a aucune spéculation, c'est pas intéressant pour les investisseurs. Par rapport à il n'y aura pas de succès. C'est une partie de notre affaire, de notre business. Il faut qu'on y fasse face. Mais ça ne va pas changer, du moins déséquilibrer le marché beaucoup. Nous voyons ça avec tous les GTLD. Cyrus Mercu, Dirk, nous arrivons à la fin de notre session. Oh, une autre personne au micro. Je suis point RS, un opérateur de registre en Serbie. Vous avez dit, Monsieur Green, vous avez parlé de la collaboration. Est-ce que vous pourriez être plus spécifique dans votre description? Parce que quand j'ai une climatisation. Et aujourd'hui, je voudrais que je mette en place l'heure à laquelle ma climatisation doit démarrer. Alors, que je suis serbe, donc je vais arriver 2 ans en retard, donc je voudrais faire passer le message à travers mon téléphone mobile. Alors, à cause des IPv6, nous avons maintenant des milliers et milliers d'adresses. Est-ce que faut que je mette le nom de la compagnie comme point Westinghouse? Nous avons... Si vous avez Westinghouse, et si vous avez un avantage de marché, parce que si vous avez un GTLD comme ça, vous avez une adresse pour tous les produits Westinghouse. Oui, David Grimm, il y a bien sûr entre toutes les marques, avec les mobiles, il y a 10 milliards d'outils mobiles d'ici la fin de cette décennie. Donc chaque objet peut avoir son IP, aura son identifiant unique, mais par exemple pour cet objet, pour que cet objet communique de retour à un serveur sécurisé pour qu'il y ait une information sécurisée pour pouvoir livrer des services numériques, il doit y avoir un certain processus de authentification pour que tout cela soit légitime et sécurisé. Et c'est là que le opérateur d'enregistre GTLD rentre en jeu. Parce que comme ça, vous pouvez servir des millions de noms de codes qui appartiendrait à chaque produit. Mais si vous voulez communiquer avec un serveur central, comme vous l'avez dit, il faudra que ce soit vérifié, authentifié, et c'est ça qu'un opérateur de registre, un code de nom de domaine d'opérateur de registre fait. La personne au micro me dit « Cela permet d'avoir de meilleures idées pour le cybercrime ». David Green, les marques auront ce genre d'avantages techniques et ils auront cette couche extra de cybersécurité qui sera construite dans leurs opérations. Par exemple, pour DDoS, il y a un écran au niveau du service du serveur. Quand on passera, par exemple, puisqu'on a DDoS au niveau du serveur, mais aussi, vous aurez donc 2 couches de protection. Et s'il y a une attaque, l'attaque qui toucherait la première couche, il y aura donc une couche de défense première, et ensuite vous avez un retour vers le serveur pour que le DDoS fonctionne. Donc c'est juste un exemple de sécurité. Kemi Campbell, je représente .ca pour le Canada. C'est une question pour Derek, Monsieur Berlin. Vous venez juste de conclure une période alors que vous avez donné des noms .berlin. Vous pensez que cela aura un impact sur la marque de votre produit et comment dans ce cas-là? Doc, pour chaque marque, c'est important d'être connu par les gens. Le remise que nous avons, le rabais que nous avons de la semaine dernière est passé dans la presse, donc cela a mis les gens au courant, les gens maintenant nous connaissent plus, les propriétaires de ce nom de domaine, ils sentent que s'ils voient leur nom de domaine qu'ils ont acheté et que c'est dans la presse, qu'il y a de la publicité, c'est bon, les gens l'utilisent, donc on a besoin de momentum pour que l'habitant de Berlin normal, régulier, puisse pouvoir montrer son nom de domaine. Donc, ce cadeau que nous lui avons fait, ça lui donne une bonne position sur Google et ça aura des bénéfices. Ça lui permet de communiquer sa marque, ça le motive. Donc, pour cette raison, ce rabais de prix, cette promotion que nous avons faite la semaine dernière, ça donne une bonne chance pour que votre TLD soit mieux connu dans la communauté. ça va peut-être pas aller jusqu'à New York ou Tokyo, mais nous, au niveau du nom de domaine, nous savons que les gens normaux dans les villes, les habitants normaux, ça a un effet local. Donc, au niveau de la communauté berlinoise, c'est ce que nous ciblons. Donc, cette activité nous a permis c'était bon pour l'espace de nom. Ça a permis une meilleure visibilité pour tout le monde.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact? Est-ce que vous avez des prévisions en termes de renouveau? Dirk, nous verrons au cours des 12 mois à venir ce qui va se passer. Donc, les gens ont 12 mois, ils vont voir le nom de domaine qui seront renouvelés et la valeur qui est attachée à chaque TLD. Plus ils sont publics, plus ils sont visibles, etc., plus il y a de valeur et plus il sera probable que les noms de domaine soient renouvelés. Comme les .com, donc nous espérons que 75% de renouveaux nous espérons qu'on atteindra cette cible. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une autre question. Le bureau d'enregistrement auquel vous faites référence, c'est un bureau d'enregistrement allemand avec une accréditation américaine. Donc, c'est entièrement allemand. Je crois que c'est les 4 plus grands bureaux d'enregistrement à Berlin qui ont 80% du marché. Ce sont en fait des bureaux allemands avec ces noms de domaine. Je m'appelle Ruben et je suis utilisateur général de l'Internet. Et ma question est pour la personne qui représente Google. J'ai un compte Google et ça marche pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup les services de Google. Je trouve qu'ils sont très utiles, mais j'apprécie également les plus petites sociétés, les plus petits acteurs qui me proposent des services nouveaux et différents. Et le fait que Google ait demandé beaucoup de nouvelles chaînes, il y a Amazon, il y a d'autres acteurs également, Point Musique, ça représente un exemple, Point App pour les applications, autre exemple encore. Et les ressources qui sont disponibles auprès de Google sont immense. Et je comprends que cela représente des opportunités en termes de développement de ces chaînes. Mais je me souviens, il y a quelques années, que sur Twitter, il y avait Point Musique qui devenait de plus en plus courant. Il y avait une autre société qui cherchait à enregistrer le Point Musique. Je me suis dit, très bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent, une grande communauté derrière tout ça. Et donc, je suis curieux. Et je me suis un petit peu préoccupée, un petit peu inquiet, je ne sais pas. Mais est-ce que je peux faire confiance aux grands acteurs qui enregistrent ces chaînes génériques, ces mots génériques? En fait, est-ce que je dois avoir certaines inquiétudes? C'est ça ma question, en fait. Jordan au micro. J'espère que non. La chose qu'il faut prendre en considération, c'est non seulement qui fait des demandes, mais comment est-ce que cela va être utilisé? Est-ce qu'on peut leur faire confiance sur la base de ce qu'ils vous ont dit par le passé? Et donc, il est clair que dans certains cas, nous avons demandé beaucoup de TLD dans différents cas, donc des TLD de marque, Google, Gmail, YouTube. Nous avons fait des demandes à l'autre extrême qui sont des espaces ouverts que n'importe qui peut faire. Les points LOL, on a fait la demande pour points LOL. Il faut que ce soit rigolo, hein, pour être sur point LOL. Mais bon, n'importe qui peut utiliser ça comme ils veulent. Et puis, il y a un territoire au milieu entre les deux où on peut s'imaginer faire un lien, si c'est un nom évident, par exemple, le hangar, donc le lieu où les gens se retrouvent. La musique, bon, c'est une application qui sera peut-être limitée à du contenu sous licence, approuvé. Donc, tant que les personnes ont les droits de mettre ce contenu, ce sera bon. Mais ceci représente une réelle opportunité. Souvent, on souhaite aller acheter de la musique, on veut écouter de la musique et on n'a pas envie d'aller sur BitTorrent, mais on se demande un petit peu comment faire. Donc, l'idée d'avoir un espace où on peut être sûr d'obtenir de la musique qui est authentique, eh bien, je crois que c'est ça l'idée de ce qu'on veut développer sur l'Internet. Mais vous avez toujours tout à fait raison. Il y a un processus qui existe à ICANN. Donc, je crois que pour la musique, il y a deux candidats. candidat de la communauté, pour ainsi dire, qui représente en fait la communauté internationale des musiciens. Et si cela peut être approuvé, eh bien, très bien. À ce moment-là, il serait avant nous. Et donc, aux enchères, il gagnerait dans ce domaine. Mais donc, je crois que ceci représente des moyens de tester de nouvelles idées. Il y a des petites entreprises qui ont déjà soumis leur candidature. Et je crois que si, tant qu'on fait confiance à la société sur la base de ce qui s'est passé par le passé, je pense que la confiance s'applique également là-dessus. Cyrus au micro. Nous avons pratiquement terminé, mais j'aimerais en 2 minutes mettre au défi mon panel. Je voudrais qu'on passe 30 secondes pour dire un petit peu à l'auditoire votre point de vue, quelques mots de sagesse pour conclure. Donc 30 secondes pour donner un petit message de conclusion. Alors Jordan au micro, je m'étais déjà préparé à ça. Je crois que ce qui est important, c'est que surtout si vous êtes un candidat pour nouveau GTLD, pensez aux 3 concepts dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit lisible, significatif et mémorable. Comment est-ce que vous pouvez avoir une réelle signification à votre nom de domaine? Parfois, c'est simplement lancer un nom et voir ce que les gens vont faire, mais souvent, il faut vraiment s'assurer de bien comprendre, que les gens comprennent bien la signification. Et je crois que ça va vous apporter de la réussite. David, au micro. La sagesse, c'est une question de perspective, mais je crois que, pour résumer, je dirais Marc. Donc, nous avons ici un moyen pour une stratégie à long terme. Le processus est en cours de développement depuis un certain nombre d'années, donc il est très important de renforcer ceci. C'est en fait une question de stratégie à long terme. C'est un petit peu ce que je dirais, c'est tout. Dirk, au micro, nous avons écrit beaucoup d'applications pour les marques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les marques vont faire avec ces nouveaux GTLD au cours des mois à venir, de voir les idées qui vont naître. Et je crois que on a beaucoup investi dans l'idée des marques dans le monde entier. Dans nos TLD actuellement, moi je suis chimiste en fait, j'ai fait des études de chimiste, et on sait que rien ne se produit sans raison. Et donc je crois que dans les nouveaux GTLD, dans le marché, ils n'investissent rien dans le marketing. Et donc, bien sûr, rien ne se produit au moment de l'enregistrement. Donc, on ne peut pas simplement s'appuyer sur le bureau d'enregistrement. Il faut que le marketing soit fait par vous-même pour que votre TLD réussisse. Sophia au micro. Je suis tout à fait d'accord en termes d'activité marketing avec Dirk. Donc, il faut absolument que cela existe pour réussir avec votre nouveau GTLD. Pour ce qui est des TLD de marque, moi, j'attends avec impatience la deuxième série pour qu'il y ait davantage de TLD d'ailleurs en Asie. Un conseil que je donnerais aux TLD de marque, aux candidats de TLD de marque, c'est d'aller vite, en fait. Si on hésite, il y aura des conséquences. On a déjà vu lors de la première série en Chine. Il y a des noms qui n'ont pas beaucoup de signification en chinois. Par contre, pour ce qui est des abréviations, il y a des contentions. Il y a des possibilités qu'il y ait des conflits avec d'autres. Et donc, ces TLD doivent correspondre à la stratégie de l'entreprise en termes de commerce électronique pour l'avenir. Donc, lorsqu'on choisit un TLD, il faut aussi incorporer la stratégie de l'entreprise. Pour ce qui est des noms génériques, je crois que pour réussir, il faut vraiment faire très attention à l'approche marketing qui doit être combinée avec vos moyens de communication actuels, vos pouvoirs actuels pour communiquer avec les clients actuels. Voilà un petit peu ce que je dirais en termes de conseils. Cyrus, merci beaucoup. Ceci conclut notre session. J'espère que cette discussion vous aura été utile et bénéfique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu une tangente donc par rapport à notre conversation typique. Et donc, si vous avez des idées sur la manière dont nous devons améliorer ce processus, si on doit continuer ce genre de séance à ICANN, très bien, dites-le nous, sinon dites-nous également. J'aimerais remercier notre panel et j'aimerais vous remercier, vous, pour votre participation. Merci.